Le terme amélioratif m'écorchait quelque part et je ne me voyais pas mettre amélioratif sans guillemets. Alors je pense que la raison, elle est assez simple et effectivement, je vais vous donner quelques exemples dans le cours de ma présentation. C'est que je pense que nous sommes dans un système technologique qui vise à augmenter les performances de l'humain dans différents domaines et que nous sommes dans une société qui tend à assimiler le plus au mieux. D'où ce glissement qui fait qu'on parle souvent de médecine améliorative, ce qui pour moi implique un jugement de valeur. Et j'ai l'impression qu'on est à un autre niveau avec les augmentations. Donc, ce que je vais faire durant cet après-midi, c'est vous raconter un peu comment j'envisage la question du transhumanisme à travers mon parcours de recherche, parce que ça fait une vingtaine d'années effectivement que j'ai commencé mon parcours de doctorat, donc je suis anthropologue, et mon parcours de doctorat, mais je vais y revenir tout à l'heure, a consisté à aller dans des laboratoires de recherche, dans des écoles d'ingénieurs, pour essayer de voir un peu quel était l'imaginaire des ingénieurs qui, il y a 20 ans, concevaient des technologies soit implantables dans l'humain, soit potentiellement implantables une fois miniaturisées. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord, dans un premier temps, je vais rapidement vous poser un peu le décor. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'anthropologie, vous êtes plutôt familiers avec le droit, si j'ai bien compris. Sociaux aussi. Donc, qui dit sociaux dit quand même un petit peu anthropo, à moins que vous fassiez de la sociologie hyper quantitative avec hypothético-déductive. Non, vous êtes plutôt dans l'inductif. Donc, d'accord. Donc, vous êtes familier déjà avec l'anthropologie. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vous poser mon point de départ, ce qui a été le point de départ de mes réflexions. Puis poser un petit peu de manière plus large le cadre de comment je vois le lien entre humain et technologie, comment j'interroge, quel est le type de questions que je pose à cette réalité hyper technicisée qui est la nôtre. Et ensuite, je vous parlerai alors de mon parcours de recherche pour essayer de vous montrer comment m'est apparu au fil du temps le fait que nous sommes engagés dans une médecine qui n'est plus du tout une médecine thérapeutique au sens classique du terme, mais bel et bien une médecine d'augmentation. Donc, le point de départ théorique, moi je ne vais pas vous faire du tout une présentation théorique, je vais plutôt vous inviter à me suivre dans mes réflexions en me suivant de comment elles sont issues à partir de mes observations empiriques. Mais mon point de départ, c'est un auteur qui s'appelle André Leroy-Gourhan. Est-ce que tout le monde a entendu parler d'André Leroy-Gourhan? Il est souvent méconnu, donc c'est pour ça que je pose la question. Donc André Leroy-Gourhan, anthropologue, paléontologue, prédécesseur de Yves Coppens à la chaire de paléontologie du Collège de France. Et moi, il s'avère que mon directeur de thèse avait lui-même fait sa thèse avec André Leroy-Gourhan. Donc, d'une certaine manière, ça montre une filiation intellectuelle, je dirais presque inévitable, parce que moi, quand j'ai commencé à suivre des cours d'anthropologie des techniques avec celui qui allait devenir mon directeur de thèse, on m'a tout de suite présenté André Leroy-Gourhan comme étant le pape de l'anthropologie des techniques et comme le modèle théorique duquel s'inspirer. Donc là, j'ai simplement pris l'image du premier des deux volumes de l'ouvrage Le geste et la parole, qui ont été publiés en 1964 et 1965, et dans lesquels André Leroy-Gourhan, en substance, développe sa théorie de l'extériorisation, théorie qui suppose, et je vous le dis en deux phrases, parce que c'est juste le petit préambule pour me situer dans une tradition intellectuelle, donc extériorisation qui, pour André Leroy-Gourhan, pour André Leroy-Gourhan, l'humain ne devient humain et le processus d'hominisation ne se fait que par un double processus d'extériorisation, d'une part dans la technique et d'autre part dans le langage. Pour le dire autrement, c'est une manière d'asseoir l'idée qu'il n'existe pas d'humain sans technologie. Donc cette idée d'extériorisation, à l'époque où j'ai commencé à le travailler, elle me semblait extrêmement fertile intellectuellement, elle me semble toujours d'ailleurs, mais il m'était assez vite apparu au début de mes réflexions que dans les années 60, quand il a développé le gros de sa théorie, effectivement, on pouvait théoriser les développements technologiques en termes d'extériorisation, mais qu'était apparu dans les 30 années qui ont suivi tout un pan technologique qui recouvrait en particulier les biotechnologies et qui donc, à mon sens, relevait plutôt de l'intériorisation de la technique. Et donc là, je vous ai dit que j'allais pas faire quelque chose de théorique, donc je vais m'arrêter là sur cette idée-là. Donc pour vous dire que le point de départ de ma réflexion, c'est cette idée d'un jeu entre une extériorisation de l'humain dans la technique et une intériorisation de la technique dans le corps humain. Et donc ça m'a amené à ce que je vous présenterai tout à l'heure, à me représenter le développement technologique actuel comme étant une sorte de pièce de monnaie à deux faces absolument indissociables l'une de l'autre, avec d'un côté ce que j'appelle la machine humanisée, donc ces machines dans lesquelles nous extériorisons des compétences humaines, ces machines auxquelles nous déléguons toujours plus de compétences qui, avant d'être déléguées à la machine, étaient considérées comme des prérogatives humaines, et le revers de la médaille, l'humain machinisé. L'humain machinisé soit de manière tout à fait littérale par l'intégration de pièces techniques et d'implants à l'intérieur du corps, mais cet humain machinisé-là, je dirais que pour moi, c'est qu'une modalité parmi d'autres, la génétique, par exemple, représentant assez logiquement une autre manière de machiniser l'humain. Et sans compter que il y a encore un niveau métaphorique, puisque ça, je vais aussi essayer de le creuser un petit peu, toute la métaphore mécaniste de l'humain, il ne s'est pas arrêté avec les nouvelles technologies qui sont, d'ailleurs, dont on se demande encore pour certaines pourquoi on les appelle encore nouvelles, puisqu'elles deviennent très vite obsolètes, mais bon, la dénomination reste. Et donc voilà l'aspect métaphorique aussi de cet humain machinisé. Maintenant, là où j'ai un peu pris mes distances par rapport à André Leroy-Gourhand, mais en même temps, je me sens tenue de vous le présenter quand même, parce que c'est ça le point de départ de ma réflexion, et que ma réflexion se ressent de cette formation que j'ai eue aux idées de Leroy-Gourhand. Là où j'ai fait un peu, non pas le meurtre du père, mais le meurtre du grand-père, là, en l'occurrence, c'est que j'ai pris mes distances parce que... une définition de l'humain comme celle de Leroy-Gourhand, qui est communément admise en paléontologie, c'est une définition qui présuppose que la technique est naturelle à l'humain. Alors c'est bien plus subtil que ça chez Leroy-Gourhand, il ne dit pas que la technique est naturelle, il dit que l'humain est naturellement pensé, est naturellement poussé de par un cerveau naturellement bien développé à penser la technique, et donc c'est en ce sens-là qu'elle est naturelle. Mais toujours est-il que le regard qui est communément partagé maintenant dans notre société, avec la paléontologie comme science sous-jacente, eh bien c'est bien l'idée qu'il ne peut pas exister d'humain sans technique. Et ça, pour moi, ça me pousse à dire que la paléontologie dans notre société remplit la fonction de mythe fondateur. Vraiment de mythe fondateur au sens anthropologique du terme, dans le sens où chaque société se raconte une histoire sur comment l'humain est apparu un jour, et cette histoire, elle justifie le rapport des humains entre eux, le rapport des humains avec les animaux, le rapport des humains avec la nature, et c'est une justification implicite de l'ordre social. Et moi, je pense que dans notre société, notre mythe fondateur nous dit que on ne peut pas penser l'humain sans la technologie. Alors là où d'un point de vue anthropologique, ça devient un tout petit peu problématique, c'est que ça nous pousse à des schémas évolutionnistes comme celui-ci. Et donc, ça veut dire que toutes ces technologies qui nous entourent, on n'est pas porté à les interroger en termes de finalité. Puisque la finalité a pas besoin, si la technique est naturelle et que c'est tout à fait naturel que nous allions vers toujours plus de techniques, il n'y a pas de raison d'en interroger la finalité. Et ça, c'est un peu le propre de notre société dans laquelle nous interrogeons surtout les modalités d'usage de la technologie. Pour le dire autrement, je crois qu'on se focalise beaucoup sur comment gérer une société hyper technicisée et très peu sur pourquoi notre société développe-t-elle toujours plus d'éléments technologiques, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des corps. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a une complémentarité entre c'est de nouveau mes termes à moi, mais ce que j'appelle d'un côté l'éthique appliquée, qui considère que la technique est là et qu'il faut en gérer les conséquences, étant entendu que certaines conséquences, bah, tout le monde est d'accord pour se dire qu'elles sont bonnes. Et on va se focaliser dans ce cas-là sur les conséquences qui nous semblent mauvaises. Or, l'anthropologie, en tout cas de mon point de vue, c'est pas se focaliser sur les conséquences, donc sur ce qui vient en aval du développement technologique, c'est revenir à ce qui vient en amont. C'est-à-dire dans la même perspective que Georges Simondon, qui déjà en 1958 écrivait que l'objet technique est une concrétisation d'une vision du monde. Et pour moi, l'exercice anthropologique, c'est dans ce sens-là qu'il est complémentaire à l'exercice d'éthique appliquée, c'est-à-dire qu'il ne va pas regarder quelles sont les conséquences, surtout négatives, du développement technologique, il va se demander quelle est la représentation de l'humain, quelle est la représentation de la vie en société, définition implicite que chacun d'entre nous a, quelle est cette définition qui est en amont et qui fait que nous développons ces technologies qui, bien sûr, ensuite auront des conséquences. Alors, par rapport, là je vous livre directement ce vers quoi je vais tendre, par appliquer ce regard par rapport au transhumanisme, c'est pour moi prendre de la distance par rapport, vous avez eu Jacques Testard, sauf erreur, qui est intervenu. Alors, Jacques Testard, j'ai eu l'occasion d'interagir souvent avec lui. Pour moi, il est assez le prototype d'un discours qui se veut anti-transhumaniste, en s'appuyant sur l'idée que le transhumanisme, c'est pas Jacques Testard qui le dit comme ça, hein, c'est moi qui traduis ce que j'entends de Jacques Testard comme étant cette position-là, position communément partagée, que lui dit peut-être un peu plus fort que d'autres, mais qui a une position communément partagée par toutes les personnes qui se disent contre le mouvement transhumaniste. Donc c'est l'idée de dire que le transhumanisme résulte d'un mauvais usage de technologies qui, si elles étaient bien utilisées, relèveraient du thérapeutique. Et le thérapeutique, c'est justement ce bon usage qu'on n'interroge pas quand on se préoccupe seulement d'éthique appliquée. Or, ma position, ça va être d'essayer de vous montrer que le transhumanisme, au contraire, n'est pas un mauvais usage de technologies qui, bien utilisées, seraient thérapeutiques. C'est au contraire l'aboutissement logique de ces bons usages thérapeutiques que, justement, nous n'interrogeons pas parce qu'ils nous semblent bons à tous. Et pour moi, la grande différence entre l'anthropologie et l'éthique, c'est ça. C'est que là où l'éthique se préoccupe des mauvais usages et essaie de les canaliser, l'anthropologie se doit d'interroger les bons usages, ceux que nous ne questionnons pas, et de se demander si on continue dans cette ligne-là, tous ces bons usages, vers quoi est-ce qu'on va arriver? Et à mon sens, la médecine actuelle, c'est bien cette direction qu'elle a prise, et c'est bien là que nous aboutissons à une société transhumaniste. J'ai oublié de vous dire de m'interrompre si vous le souhaitez. Je ne suis pas toujours facile à interrompre parce que quand je me mets à parler, je parle, mais il faut gesticuler, cas échéant, et n'hésitez pas, si vous voulez garder la discussion pour après, ça va aussi, mais je ne tiens pas à tout prix à faire un monologue, c'était ce que je voulais dire. Donc moi, mon regard, c'est d'essayer de me demander quel type de société nous sommes en train de construire collectivement, et donc d'essayer de mettre un projecteur sur les valeurs qui sont en amont. Alors maintenant, je vais entrer plus dans le concret, et je vous ai parlé de ma médaille, la machine qu'on humanise, l'humain qu'on machinise. Je pense que le transhumanisme, il est à l'aboutissement de ces deux tendances, et je vais commencer par vous parler un tout petit peu, très brièvement, de machines humanisées, donc de robots en d'autres termes, mais je crois que vous avez déjà pas mal parlé de robots, arrêtez-moi si j'enfonce des portes ouvertes par rapport à des choses qu'on vous a déjà dites, mais là moi ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de vous montrer la porte d'entrée de l'anthropologue qui essaye de garder l'humain au centre de la réflexion et pas la technologie. Donc commençons par la question de la machine humanisée. Alors toujours, évidemment, je vous ai introduit à Leroy Gourhan, donc vous voyez maintenant la logique qui est la mienne quand j'aborde ça. Premier processus de délégation du geste. Alors évidemment, si on suit Leroy Gourhan, on peut se dire que de toute façon, le premier silex est déjà un processus de délégation. On va se concentrer surtout sur la robotique. Donc, première délégation à la robotique, la force physique, hein, la force manuelle, avec les exemples que j'ai choisis là, le bras robotique dans une usine de montage, donc qui remplace la force physique de l'ouvrier, le robot mixeur, le robot ménager, toutes les personnes qui ont essayé de battre un blanc d'œuf en neige parce que leur mixeur était en panne, se sont bien rendu compte que c'est bien de la force physique qu'on a déléguée à cette machine. Et j'ai pris le petit aspirateur comme troisième exemple parce que cet aspirateur, il est vendu, il est promu un peu partout maintenant avec deux adjectifs qui sont aspirateur autonome et aspirateur intelligent. Donc on aurait du coup l'idée qu'il est dans une autre catégorie. Mais de nouveau, si on se place du point de vue de l'humain, cet aspirateur, on pourrait disserter pendant des heures sur ce qu'est l'intelligence, mais je veux dire, il nous est vendu avec un plus, je dirais, par rapport au robot ménager. Or, du point de vue de l'usager et de l'usagère, il ne fait jamais que de passer l'aspirateur pour vous. Il est quand même toujours en train de... Vous lui avez toujours délégué un geste. Donc, on est, pour moi, dans la même catégorie de technologie. Là où un cap a été franchi, c'est, bien évidemment, avec la délégation de la décision à la machine. Et là, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais depuis à peu près 2 ans, on voit fleurir partout les congrès autour de l'intelligence artificielle. Alors, les congrès dans le monde des sciences humaines et sociales, dans le monde de l'ingénieur, mais aussi, et principalement, j'ai envie de dire, dans le monde politique, hein, où tout à coup, il y a comme une espèce de prise de conscience du fait que l'intelligence artificielle est parmi nous, les algorithmes, c'est devenu le mot... dont il faut se méfier pratiquement. On a l'impression qu'il y a tout à coup une effervescence autour de ces machines qui prennent des décisions pour nous. Alors là, j'ai simplement pris l'affiche du premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Genève. Alors le fait qu'il y ait un sommet mondial, il y a déjà eu le deuxième en 2018, hein, il y a eu le sommet mondial sur le développement, enfin le sommet mondial des Nations Unies, c'est toujours autour d'un thème jugé comme... primordial pour l'humanité entière. Donc, c'est pas anodin que même eux s'emparent de l'intelligence artificielle. Et là, ce qui m'amusait, c'est le slogan. C'est intelligence artificielle for good. Donc, de nouveau, pour le bien. Donc, de nouveau, cette idée qu'il y a un bon usage qu'on se doit de favoriser, mais sans s'interroger vraiment à fond sur le type de société qui est au bout de la route. Alors, du point de vue... encore un élément, parce que si j'ai le temps, j'y reviendrai. Ce sommet mondial sur l'intelligence artificielle, pour moi, il est à mettre dans le prolongement de 2 autres sommets mondiaux qui ont eu lieu il y a 10 ans, à savoir, en 2003 et 2015, il y a eu... 2003 et 2005, pardon, les 2 étapes du sommet mondial sur la société de l'information. Et là, on voit vraiment en termes technologiques et en termes de, je dirais, d'accès à l'information, et ça c'est important, j'y reviendrai un peu plus loin dans ma présentation, le sommet mondial sur la société de l'information, c'était, parce qu'à ce moment-là, on appelait ça la société de l'information. Et puis après, on s'est mis à appeler ça la société de la connaissance, la société du savoir. Mais la société dont on parle, c'est toujours la même. C'est une société hyper connectée, dans laquelle prévaut quelque chose qui relève de l'idéologie, à mon sens, idéologie qui veut que, qu'en gros, on va, je caricature, hein, je vous dis les choses de manière un peu caricaturale, prenez-les comme ça, qui veut que, en connectant le monde entier à Internet, on va sauver le monde. Il y a vraiment cette idéologie du tout connecté. Et là, le sommet mondial sur l'intelligence artificielle, je le vois dans le prolongement de cette idée-là. Maintenant, un tout petit peu plus récemment, alors évidemment, je viens de Suisse, donc je ne sais pas si vous avez vu passer ces choses-là, mais en 2018 a eu lieu déjà une rencontre, une énorme rencontre en lien avec l'intelligence artificielle au service de la médecine, à Bâle, en Suisse, et ils ont déjà programmé la suite pour cet automne. Et de nouveau, le petit résumé qu'on trouve sur le site, à mon avis, est très éloquent, vu qu'on nous dit que en 2019, la communauté des gens qui se préoccupent de la santé et de l'intelligence artificielle vont se rencontrer de nouveau pour avancer dans la discussion à propos de comment l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée pour résoudre certains des plus grands challenges en lien avec la santé dans le monde. De nouveau, c'est un exemple parmi d'autres. On trouve au niveau européen aussi, il y a une tonne de production de documents. Il y a quelques années, c'était sur le e-citoyen européen, hein, le citoyen connecté qui serait forcément plus heureux. Puis là, on voit un petit glissement et la santé est de plus en plus inclue dans ce processus, avec l'idée que l'intelligence artificielle va pouvoir lui bénéficier. Alors moi, ce qui m'amuse un petit peu, je vous ai dit avec un air un petit peu ironique tout à l'heure, que tout à coup, cette intelligence artificielle, tout à coup, il y a une effervescence autour. Je suis effectivement un petit peu ironique parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme si tout à coup, on s'éveillait en se disant, tiens, l'intelligence artificielle est parmi nous, les machines commencent à prendre des décisions pour nous. On oublie quand même un petit peu qu'on est dans un processus qui est pas à long terme parce que les technologies vont très vite, mais que la délégation de la décision à la machine, c'est quelque chose qu'on pratique déjà au quotidien pour la plupart d'entre nous, même s'il s'agit parfois que de micro-décisions. Alors là, bon, bah, j'ai pris l'ordinateur. L'ordinateur, c'est pour symboliser cette intelligence artificielle dont je viens de parler. Mais, par exemple, la voiture. Depuis, vous avez peut-être parlé de voiture autonome. Tout le monde parle de voiture autonome depuis quelque temps, avec cette grande question qui intéresse effectivement le monde du droit, quant à savoir à qui est la responsabilité en cas d'accident. Là aussi, tout à coup, il y a une question qui se pose de manière assez violente. Mais de mon point de vue, supprimer le conducteur de la voiture, c'est jamais que l'étape ultime d'un processus qui est en route. Je parle de voiture, je peux bien dire en route depuis déjà longtemps. Alors l'avion, évidemment, c'est un autre exemple. Je veux dire, tout le monde prend l'avion en sachant qu'il est régulièrement sur pilotage automatique. Il n'y a vraiment rien de nouveau dans le fait que des machines prennent des décisions à la place des humains. Moi, ce qui me frappe, c'est la perte de confiance. Et là, j'amène tout doucement le fait que je vais retourner ma médaille. Ce qui me frappe, c'est la perte de confiance en l'humain qui s'accompagne de cette délégation décisionnelle à la machine. Je vais vous raconter une anecdote. C'est ma voiture, en fait, que vous avez sur l'image en bas à droite. Et depuis que j'ai acheté cette voiture il y a 2 ans, elle me fait beaucoup réfléchir. Et j'aime bien en parler, du coup. Mais je trouve que c'est très évocateur parce que il y a peu d'entre nous qui savent piloter un avion. Par contre, beaucoup d'entre nous ont un permis de conduire et je pense que ça nous parle beaucoup plus, les questions de voiture. Alors, il y a deux choses. Cette voiture m'a fourni 2 exemples à vous donner récemment. Le premier, c'était la semaine dernière. Elle est allée au garage. Enfin, on l'a emmenée au garage. Elle n'est pas autonome, elle n'y va pas toute seule. Et en fait, quand on l'a acheté, moi, j'ai vraiment râlé parce que elle m'apparaît comme la concrétisation de la délégation du geste. Enfin, il y a la direction assistée. Maintenant, elle a une boîte à vitesse automatique. J'ai même plus besoin de changer les vitesses. Enfin, j'ai l'impression que du point de vue technique, gestuel, j'ai plus grand chose à faire. Et les essuie-glaces qui s'allument automatiquement et qui se mettent plus fort s'il pleut plus, les phares qui s'allument automatiquement. Enfin, du point de vue, c'est des micro-décisions. Alors, j'ai réussi à désactiver le truc des essuie-glaces, mais j'ai pas réussi à désactiver les phares. Et je disais, mais c'est une micro-décision, mais jusqu'ici, c'était ma décision que d'allumer mes phares quand j'arrivais dans ma voiture. Et donc, ça fait 2 ans, ça, et la semaine dernière, je vais la chercher au garage et je suis sur l'autoroute. Et il y a quelqu'un derrière moi qui me fait des appels de phare frénétiques, j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai mis 30 kilomètres quand la nuit a commencé à tomber pour me rendre compte que mes phares étaient éteints. Et je me suis entendue penser, mais quelle est l'andouille qui m'a désactivé mes phares automatiques? Tout à coup, c'est devenu ça, il a suffi 2 ans, et c'est devenu le truc que maintenant j'ai tellement perdu l'habitude de faire que je sais même pas le faire sur cette voiture. Je tripotais tout frénétiquement. Et je pense que c'est un bon exemple de comment on s'accoutume à cette délégation de micro-décisions à la machine. L'autre exemple, qui à mon avis est beaucoup plus parlant quant à la perte de confiance en l'humain, c'est l'année dernière. Un jour, je me mets au volant, j'obéis à ce que me dit ma voiture qui me dit, elle dit toujours, pied sur frein. Les quelques actes physiques qu'on a encore à faire, elle nous dit, elle nous précise qu'il faut les faire. pied sur frein et appuyer sur start. Il n'y a plus que le petit bouton sur lequel appuyer. Et au moment où j'appuie, un signal jaune énorme apparaît sur le tableau de bord qui dit « problème moteur, allez au garage immédiatement » et une espèce de bruit strident au cas où j'aurais pas lu. Donc j'obéis à ma voiture, je vais au garage et le garagiste la garde un jour. Premier jour, il nous appelle et nous dit bah, « écoutez, on l'a essayé sur route, sur autoroute. Jusqu'ici, on n'a pas décelé de problème particulier. Est-ce que vous aviez décelé un problème ? » Non, on n'avait pas décelé. Bon, deuxième jour, rebelote, ils n'ont toujours pas décelé de problème. Troisième jour, ils nous appellent. Alors écoutez, on a appelé le service assistance client dans le pays d'où vient la voiture, parce qu'on ne sait pas. Et à la fin du troisième jour, ils nous ont dit, bah, écoutez, revenez la chercher, parce que en fait, elle n'a rien. Apparemment, le seul problème, c'était ce signal qui disait qu'il y avait un problème. Alors nous, on s'est dit, elle n'avait pas de problème moteur. En fait, elle avait un problème psychomoteur, cette voiture, manifestement. Mais moi, ce que ça m'a dit, c'est que des mécaniciens agréés de la marque, qui ont dû être formés sur ces voitures-là, pendant 3 jours, n'ont pas fait confiance à leur expérience de spécialiste de cette voiture, mais à un signal qui leur disait que forcément que quelque chose n'allait pas. Et ça, je pense que c'est un signe parmi d'autres. Qui nous montre que dans l'équilibre de qui fait confiance à qui, ben l'humain de plus en plus a tendance à faire plus confiance à la technique qu'à lui-même avec ses compétences humaines. Maintenant, le problème, si j'ose dire, le problème, c'est que pendant que qu'on s'est mis à disserter sur l'intelligence artificielle et ses machines qui prennent des décisions à notre place, bah dans les laboratoires, on ne s'est pas arrêté. On a déjà franchi une autre étape qui est la délégation des aptitudes relationnelles à la machine. Alors là, je vous ai pris un exemple. Vous avez peut-être entendu parler, tout le monde en a parlé en 2017, enfin tout le monde. On en a beaucoup parlé en 2017. C'est un robot chinois qui s'appelle Jiajia, qui a été conçu par un ingénieur dont l'argumentaire était de dire que les jeunes Chinois ne veulent plus d'un certain nombre d'emplois qu'ils ne jugent pas à leur hauteur. Parmi ces emplois, ben, il y a travailler avec les personnes âgées, travailler dans les hôpitaux, enfin les métiers basiques, j'ai envie de dire, du soin. Et on nous dit que Jiajia ben, va être appelé à les remplacer. Maintenant, moi, à partir de là, il y a 2 questions que je me pose, pour lesquelles j'ai absolument aucune réponse, hein, mais que je vous donne. C'est le type de questions que je me pose quand je vois ce type de développement. Pour moi, il y a 2 possibilités à partir de là. Soit Jiajia restera toujours un robot avec un certain nombre de compétences relationnelles très limitées. Et donc, ça pose la question du type de relation qu'on veut instaurer dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite si un robot qui n'a pas les mêmes aptitudes relationnelles que l'humain. Et donc en termes de projet de société, ça nous dit quelque chose, quelque part, sur l'absence de relationnel qu'on est en train d'accepter, d'instaurer dans ces environnements-là. Maintenant, l'autre option, c'est si on en suit la logique des roboticiens qui font de la robotique bio-inspirée. Alors, ceux qui font de la robotique bio-inspirée considèrent que, de la même manière que la vie et l'intelligence apparaissent chez les êtres humains par auto-organisation de la matière, que ça pourrait tout à fait aussi arriver dans une machine. Leur idée, c'est de dire, on ne sait pas, on n'a pas le code, on ne sait pas comment il faut agencer la matière pour que ça donne lieu à un être vivant et intelligent. Il y a une auto-organisation de la matière qui spontanément, il y a des comportements émergents dans la matière qui font qu'il y a la vie et l'intelligence qui apparaissent. Et donc leur idée, c'est de dire, de la même manière que ça apparaît chez les humains, il n'y a pas de raison que ça apparaisse pas chez un robot qui aurait atteint le bon niveau d'organisation. Pour moi, ça relève de la croyance, ça, dans le sens où ils n'ont absolument pas la moindre preuve, ils ont juste la certitude que ça pourrait arriver. Alors, imaginons que Jiajia puisse un jour voir apparaître en elle tout ça et qu'elle soit vraiment un équivalent d'humain. Alors à ce moment-là, c'est une autre question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est de dire, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que Jaja ne dirait pas, mais vos petits boulots, moi je ne les veux pas non plus. Parce qu'il n'y a pas de raison, si elle devient légale des jeunes Chinois qui ne veulent pas ces emplois, ben, il n'y a pas de raison qu'elle ne les veuille plus. Donc pour moi, dans les deux cas de figure, disons, que je vois s'ouvrir à partir de ce robot qui travaille avec des personnes malades ou des personnes âgées, bah dans les deux cas, je vois un problème de société au fond du raisonnement, que ça soit parce qu'elle est devenue très humaine ou parce qu'elle n'est pas devenue très humaine. Maintenant, autre exemple aussi de 2017, ce jeune Chinois qui a épousé un robot. Vous en avez entendu parler de celui-là ? Donc, c'est pas du tout un mariage juridique. Hein, le robot n'est pas un sujet de droit qui peut se marier. Mais c'est un jeune Chinois à qui sa famille mettait la pression parce qu'avec le déséquilibre démographique en Chine, bah, il ne trouvait pas chaussure à son pied. Et il avait la pression familiale. Comme il est ingénieur, bah, il a fini par se dire bah, « je vais la fabriquer, ma femme ». Donc, il a fabriqué un robot et il y a eu une fête de famille. Et apparemment, ça suffit à satisfaire la famille. Donc, c'est anecdotique, mais en même temps, ça nous en dit long sur une société dans laquelle, petit à petit, l'humain et la machine sont interchangeables. Alors, ils étaient interchangeables pour la force physique, ils sont devenus interchangeables pour la décision, et là, ils deviennent interchangeables même pour des comportements, des activités où ce serait plutôt le relationnel qui l'emporterait. De nouveau, en termes de société, j'ai pas de réponse, mais je m'interroge sur le type de société vers lequel, à terme, on va avec cette interchangeabilité. Maintenant, je vous parle de la Chine, mais là, je vais vous parler de la Suisse. Ça, c'est un robot qui s'appelle Zora. Alors, en fait, le robot, c'est Nao, le robot, mais il y a un logiciel qui s'appelle Zora. Et déjà, en termes de genre, hein, on n'a pas le temps de le faire, mais on va juste tendre la perche. Zora, c'est un logiciel qui est développé justement pour le travail dans le milieu du soin, donc l'équivalent de Jaja. Et c'est plus Nao, c'est Zora, c'est un prénom féminin, et les adjectifs qui lui sont accolés sont aussi des adjectifs féminins. Donc en termes de reproduction des stéréotypes sociaux dans la robotique, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Toujours est-il que ce robot, il est déjà actif, en tout cas près de Lausanne où j'habite et où j'enseigne. Il y a déjà deux établissements de maisons de retraite dans lesquels Zora travaille. Là aussi, je mets des gros guillemets. Hein. Je n'ai pas pris l'image où on voit Zora avec des personnes âgées, mais il y a des images qui circulent où elle leur fait faire la gymnastique, où on la voit avec un bâton dans les mains et puis elle montre aux personnes âgées les gestes qu'il faut faire pour faire de la gymnastique. Et alors moi, ce qui me frappe, c'est l'image que vous avez là, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, c'est tiré du site qui vend le logiciel Zora. Alors déjà, on nous dit, qu'est-ce qui rend la solution Zora parfaite ? Déjà, cette phrase, elle est évocatrice de tout un monde par rapport aux rêves technologiques. Il y a une solution technique. On est une société dans laquelle il y a une solution technique pour tout, quelle que soit la nature du problème. Et là, ils ne nous disent même pas ce que c'est le problème. Ils nous balancent juste la solution technique, et puis après, à nous de réfléchir à quel type de problème on a, auquel elle pourrait répondre. C'est très fort de leur part, parce que ça laisse la gamme des applications potentielles de Zora très ouverte. Mais alors moi, ce qui me frappe énormément, c'est les qualificatifs qui sont accolés à Zora. Pourquoi est-ce qu'elle est la solution parfaite ? Parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est joueuse, parce qu'elle est mignonne et parce qu'elle est patiente. C'est fort quand même de vendre un robot avec ces qualificatifs-là. À mon avis, c'est d'autant plus fort, et j'en reviens à mon histoire d'interchangeabilité, que gentille et patiente, par exemple, c'est typiquement des qualificatifs qu'on attendrait du personnel soignant humain. Or, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, le personnel soignant humain se plaint de plus en plus du minutage des actes médicaux qui fait qu'ils doivent aller à l'essentiel du geste de soin et que justement, pour être patient et gentil, ils n'ont plus trop le temps. Et donc, c'est dans cet environnement de performance qui est demandé en milieu hospitalier et en maison de retraite qu'on réinjecte un robot qui, lui, est censé être gentil et patient. Je trouve que ça invite vraiment à réfléchir par rapport à l'interchangeabilité, sans compter qu'on peut tout à fait imaginer que quelqu'un, en tombant sur ce site, se dise « Ah ben tiens, dis donc, je ne savais pas que les robots avaient déjà fait autant de progrès. » Enfin, il y a clairement quelque chose qui relève, on va dire, de la publicité mensongère. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Mais en plus, on pourrait imaginer que ça soit complètement pris à la lettre. Donc, il y a tout un imaginaire aussi qui est associé. Ce n'est pas juste un objet. C'est un objet intégré dans tout un imaginaire social. Comme je pensais que vous étiez en droit et que donc vous en saviez beaucoup plus que moi sur les questions juridiques, j'ai quelques slides, mais je vais quand même poursuivre ma réflexion. Ça ne fait rien parce que peut-être que ça va vous paraître complètement naïf le regard de l'anthropologue là-dessus, mais je vous le dis quand même. Vous avez entendu parler de Sophia, le robot à qui l'Arabie Saoudite a conféré la nationalité. Je veux dire, là aussi, coup de pub, enfin je sais pas, moi j'ai pas compris, j'ai pas beaucoup creusé la question, vous en savez peut-être plus que moi, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais on a beaucoup parlé d'eux, peut-être que ça suffisait. Toujours est-il que ça, tous ces éléments mis bout à bout, et Sophia c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça ouvre la question du droit des robots. Et vous en avez parlé la semaine dernière, sauf erreur. Donc, encore une fois, moi, j'ai un regard complètement extérieur par rapport au monde juridique. Mais moi, ce que je constate, la réflexion que je me fais par rapport à ça, c'est de me dire que l'antispécisme, qui maintenant devient un mouvement de plus en plus fort, logiquement, devrait revendiquer des droits pour les robots. Comme l'étape ultime. Si on prend, vous avez certainement parlé d'Alain Bensoussan aussi, j'imagine, si vous parlez des droits des robots, lui, il dit « le robot est une espèce artificielle ». Donc, si on est cohérent par rapport à une logique qui est à l'œuvre dans notre société, ça veut dire que si toutes les espèces sont égales, comme le veut l'antispécisme, logiquement, le robot devra aussi entrer dans le droit avec cet argument-là, et pas seulement... parce que là, il entre un peu par la petite porte quand même. L'animal est entré dans le droit par la grande porte en vertu de tout ce qu'il a de commun avec l'humain, la sensibilité, la souffrance. Le robot, il entre un petit peu par les devoirs, justement la responsabilité, qui est responsable s'il y a un accident, enfin ça, moi je le perçois en tout cas comme ça, on ouvre la porte par la question des devoirs et puis la question des droits, elle découle logiquement. Mais je pense que ça devrait logiquement devenir pour les antispécistes un nouveau combat, je dirais. Et dans ce sens-là, ça rejoint de nouveau mes deux revers de médaille, ils se rejoignent parce que ça veut dire que le robot poussé à l'extrême, il est je dis des bien grands mots, il ne faut pas les prendre comme ça, là encore je caricature, une négation des lois de la nature quelque part. J'ai des citations d'ingénieurs, j'espère y arriver, mais de personnes du monde des chercheurs qui disent « mais c'est la nature qui doit régler les questions d'évolution ». Que la nature devrait être reine. Or, là où je vois de nouveau mes deux pièces de médaille, c'est qu'on a d'un côté le transhumanisme qui veut faire mieux que la nature pour l'humain, et puis de l'autre côté, on a ces robots qui, petit à petit, prennent un statut d'espèce artificielle, et là aussi, c'est une manière de prendre le relais de la nature pour créer quelque chose. C'est la volonté démiurgique appliquée aussi bien aux côtés de l'humain machinisé qu'aux côtés de la machine humanisée. Voilà, maintenant alors, je vais retourner ma médaille justement, et je vais commencer on revient 20 ans en arrière, donc j'ai commencé mes recherches de terrain à l'année académique 1900, il faut que je le dise en français et pas en suisse en plus, 1997-98. Donc je suis allée dans des laboratoires de recherche. Et très vite, il y a deux constatations qui se sont imposées à moi. qui sont des questions et qui, je pense, 20 ans plus tard, continuent à être non seulement d'actualité, mais encore plus d'actualité. La première, elle se résume avec l'histoire du bateau de Thésée. Hein. Thésée, parti d'Athènes combattre le Minotaure. À son retour, vainqueur, son bateau fut préservé par les Athéniens qui retiraient les planches usées et les remplaçaient, de sorte que le bateau resplendissait encore des siècles plus tard. Il ne resta bientôt plus aucune planche d'origine. Alors, moi, j'ai commencé à penser à ça parce que j'allais de laboratoire en laboratoire. Je regardais ce que faisaient les gens, je discutais avec eux. Et puis voilà, premier laboratoire. On m'explique qu'on est en train de travailler à une hanche artificielle en titane, vraiment le super prototype, on va pouvoir gambader avec ça. Et puis après, le suivant, il travaille sur la rétine artificielle. Et puis après, il y en a un autre qui travaille sur un pacemaker. Et puis chacun me parle de son projet. Et puis au bout du 15e laboratoire, moi je sors avec la tête qui tourne en me disant « Oui, mais si un individu, par manque de chance, avait besoin de tout ?» Est-ce qu'il y a une limite quantitative à partir de laquelle on lui dirait « Ouh là là, oh non, 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 ma petite dame, vous avez déjà 29 prothèses, là. À partir de 30, on est une machine. Alors, à vous de décider. Vous voulez rester un humain, auquel cas vous gardez votre coude fracturé, ou alors est-ce que vous êtes d'accord de devenir une machine ?» Est-ce que quantitativement, il y a un moment à partir duquel ça arriverait ? Ou alors, est-ce que qualitativement, il y a une fonction ou un organe à laquelle aucun ingénieur ne voudrait toucher sous prétexte de toucher à la, je mets des gros guillemets, nature humaine de la personne qu'il a en face. Et c'est un peu c'est la première question que je me suis posée, c'est cette question-là qui m'a portée un peu pour toute la suite de ma recherche, et force est d'admettre que j'ai toujours pas de réponse, hein, et que personne n'a de réponse. C'est typiquement le genre de question auquel on aura une réponse seulement si ça arrive. C'est-à-dire qu'il faudrait que le cap soit franchi et puis qu'on se dise « Ah non, là, on a passé un cap » pour se rendre compte que c'était celui-là. Maintenant, la deuxième observation, c'est celle qui nous conduit au cœur du transhumanisme, sauf qu'à l'époque, le terme transhumanisme, j'imagine, vous avez un peu fait l'histoire du terme, donc il existait depuis 1955, mais personne ne parlait encore de transhumanisme, en tout cas en Europe, à ce moment-là. Et moi, ce qui m'a frappée dans les laboratoires, c'est que je commençais à voir apparaître un glissement, parce que je me rendais compte que les personnes à qui je parlais avaient un mot à la bouche, c'était thérapeutique. Ils me parlaient toujours, ils me montraient toujours leurs projets pour les personnes malades, pour les personnes handicapées, pour les personnes accidentées. Et il y avait toujours un moment, toujours j'exagère, souvent, un moment où tout à coup ils se mettaient à me parler d'un autre de leurs projets. Et dans cet autre projet, moi je reconnaissais pas ce thérapeutique dont ils étaient en train de me parler. Alors, je vous donne un exemple parce que, en plus, c'est un ingénieur dans le laboratoire duquel je suis retournée l'année dernière pour voir, 20 ans plus tard, comment il avait évolué dans son discours et dans ses pratiques. Et donc, lui, alors, c'était très intéressant parce que lui, alors, un discours très, très orienté sur le thérapeutique. Moi, alors, je ne vais peut-être pas dire naïvement, mais très franchement, au moment où j'ai vu apparaître un peu ce glissement, je l'ai dit. Je disais, mais là, vous êtes sur ce projet-là, ce n'est pas vraiment thérapeutique. Et c'était comme si je les accusais de quelque chose quand je disais ça. La réaction, c'était, mais non, ce dont vous parlez, c'est de la science-fiction. Moi, je fais vraiment que du thérapeutique. Et je vous donne un exemple de pourquoi il pouvait soutenir qu'il faisait du thérapeutique. Donc, c'est que donc lui, alors le projet qu'il m'avait présenté, c'était un projet qui visait à permettre à des personnes en chaise roulante de faire, de manipuler leur chaise directement avec ces bonnets de bain, avec les capteurs externes à la tête. Et à un moment, je lui dis, est-ce que vous avez d'autres projets en cours dont vous pourriez me parler ? Et il me dit, oui, je travaille aussi avec, je ne sais plus pour quel pays, l'aéronautique. Et moi, du coup, là, je prends mon air le plus naïf possible et je lui dis « dingue, ils vont envoyer des astronautes handicapés dans l'espace !» Et il y a un grand silence. Elle me dit « Non, pourquoi ?» Puis je dis « parce que vous m'avez dit que vous travaillez exclusivement pour handicap, maladie, et sinon, je ne vois pas. » Et il me dit, ah non, 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 mais c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, l'astronaute, quand il est sur Terre, bah, il est tout à fait adapté à son environnement. Mais une fois dans l'espace, il est plus adapté. Donc, il devient handicapé. Donc, je fais de l'aide aux astronautes qui deviennent handicapés une fois qu'ils sont dans l'espace. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a vraiment, non seulement le glissement, il est là, mais il n'en est pas conscient. Et je ne sais pas laquelle des deux observations m'inquiétait le plus à ce stade. Et alors là où je trouve toujours très amusant, c'est que le terme cyborg, c'est un terme qui est apparu pour la première fois en 1960 dans un texte écrit par deux ingénieurs de la NASA, justement. Ingénieurs, 1960, début de la course à l'espace, hein, toutes les grandes nations rêvent d'envoyer le premier homme dans l'espace et se posent justement la question de savoir comment cet humain va survivre dans l'espace. Alors la NASA, ces deux ingénieurs, commencent à réfléchir. Et en gros, c'est un tout petit article dans lequel ils disent, il y a deux options. Soit on fait en sorte que l'humain dans l'espace soit entouré d'un environnement qui fait qu'il sera à l'aise comme sur Terre, soit on le modifie pour le rendre compatible avec l'espace. Et ils ont conclu que la première solution est bien trop compliquée, que ça sera beaucoup plus simple de modifier l'humain, et que donc c'est dans cette perspective-là qu'ils vont avancer. Et donc cyborg, c'est la contraction entre cybernetics et organism. Et voilà, je trouvais assez amusant parce que le terme cyborg, on a commencé à en parler un peu plus tard, lui et moi, quand j'ai fait la connaissance de Kevin Warwick en 2001, je l'ai rencontré. Kevin Warwick, c'est un chercheur qui, à l'époque, travaillait à l'université de Reading, près de Londres, ingénieur, qui part de l'idée que l'humain est obsolète. Il a écrit un livre, ce livre-là, en 2002, dont la première phrase est « Je suis né humain par accident ». Donc il annonce tout de suite la couleur. Pour lui, il n'y a pas d'autre avenir pour l'humain s'il ne fusionne pas avec la machine. Et je trouvais assez amusant l'histoire du cyborg parce que Kevin Warwick vraiment dit qu'il faut non seulement qu'on fusionne avec la machine pour augmenter toutes sortes de nos capacités, mais qu'à terme, ça conduise à une rupture évolutive et qu'on deviendra une autre espèce. Alors lui, il appelle ça les cyborgs et il ambitionne d'être le premier cyborg. Et là où je trouvais assez amusant, c'est de me dire justement que la définition du cyborg telle que je vous l'ai présentée, ce que mon ingénieur faisait avec ses astronautes, c'était du cyborg. Or, quand je lui dis, parce que lui continuait, comme je vous l'ai dit, à me dire, mais c'est de la science-fiction, l'idée d'améliorer l'humain. Et donc, un jour, je débarque et je dis, j'ai fait la connaissance de Kevin Warwick, et je raconte, et je dis, vous voyez, c'est pas de la science-fiction, c'est un ingénieur dans un vrai laboratoire, avec des vrais financements de recherche conséquents, et tout son travail est orienté, je vous en parlerai un petit peu, tout son travail est orienté pour se donner des performances accrues en fusionnant avec la machine. Et moi, je trouvais ça assez amusant que ça soit le même terme qui soit utilisé. Et là, mon ingénieur modéré donc, me dit « Ah oui, d'accord, ça, c'est pas de la science-fiction, mais lui, il est fou. » Donc, il y a cette étiquette qui tombe. « D'accord, je vous concède que lui, il le fait. » Et du coup, j'ai commencé, dans les laboratoires où je travaillais à ce moment-là, j'ai commencé à dire que j'allais partir en Angleterre parce que je me suis dit, là, ce que je voyais dans les laboratoires, c'était un glissement dont personne voulait me dire, oui, effectivement, je fais bien ça. Et ce glissement, pourtant, je le voyais là. Donc, je me suis dit, je vais aller dans le laboratoire de ce Kevin Warwick, s'il m'accepte, pour voir un peu plus concrètement un laboratoire dans lequel ils assument haut et fort le fait qu'ils sont en train de faire des choses pour augmenter la performance humaine. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, j'ai pas le temps de vous raconter l'anecdote, mais il était même pas conscient du fait que ce qu'il faisait pouvait servir aussi pour du thérapeutique. C'est dire ce qu'il était obnubilé par l'idée que lui, ce qu'il voulait, c'était augmenter ses performances. Et donc, je commence à dire, alors je vais partir étudier Kevin Warwick dans son laboratoire. Et là, je rencontre deux types de réactions différentes de la part des chercheurs avec qui je travaillais à ce moment-là. Enfin, c'était deux réactions différentes, mais en fait, elles concordaient. Parce qu'il y avait ceux qui, comme celui dont je viens de parler, me disaient, il est fou. Mais alors, lui, il m'a dit... Mais si tu veux étudier des ingénieurs normaux, mais il faut rester ici. Enfin, une anthropologie des ingénieurs, faut pas aller chez un fou comme ça. Et puis il y en a d'autres qui disaient, ah ouais, pour une anthropologue, ça va être super intéressant d'aller étudier un fou comme lui. Pardon. Donc il y avait ceux qui me disaient d'y aller, ceux qui me disaient de pas y aller, mais ils avaient tous pour point commun de me dire qu'il était complètement fou. Donc là, on est en 2002, la même année. Paraît le désormais célèbre rapport sur les technologies convergentes, rapport de la partie du gouvernement américain en charge de distribuer les subventions de recherche. C'est à mon avis la seule fois qu'on voit écrit vraiment noir sur blanc dans un rapport politique que les technologies doivent converger pour augmenter la performance humaine. Hein, c'est l'idée que nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives doivent converger, mais pas converger comme ça sur rien. Elles doivent converger pour augmenter les performances humaines. Et donc, j'ai aussi ça. J'ai sous le bras d'un côté Kevin Warwick, dont on me dit qu'il est fou. Alors je me dis, ben tiens, ça émane d'un gouvernement. Soit dit en passant, je veux dire, il y a tous les Kevin Warwick qui n'étaient pas nombreux à l'époque, qui évidemment était à l'affût de financements comme ceux-là. Mais il faut aussi se dire qu'il y a tous les chercheurs qui, jusque-là, n'avaient pas eu l'idée d'augmenter la performance humaine. Mais dès le moment où un rapport est publié qui leur dit « bah voilà, dans les 20 prochaines années, voilà le type de recherche qu'on va financer », forcément que ça donne des idées dans les laboratoires. Et donc, je dis « bah il n'y a pas seulement Kevin Warwick, il y a aussi ce rapport ». Et là, la réaction a été unanime aussi. « Oui, mais eux, c'est des Américains ». Donc j'avais passé de c'est de la science-fiction en 1998 à en 2002, oui d'accord, il y en a qui le font, mais en Europe c'est un fou et sinon c'est des Américains, toujours avec ce sous-entendu, nous on mange pas de ce pain-là. Et je vous donne juste alors deux petites citations tirées de ce rapport, parce que je trouve qu'elles évoquent très très bien la représentation de l'humain, justement, qui est derrière. La première, c'est « Les performances de nombreux systèmes militaires sont limitées à cause de l'incapacité du corps humain à supporter de hauts niveaux de température, d'accélération, de vibration ou de pression, ou encore parce que les humains ont besoin de consommer de l'air, de l'eau et de la nourriture. »
Ils sont chiants, ces
humains. Ouais. Et alors la deuxième, que je trouve encore mieux, l'humain est devenu le maillon faible aussi bien d'un point de vue physique que cognitif. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la perte de confiance dans l'humain. Cette phrase, elle est à prendre à la lettre. Je veux dire, leur idée, c'est vraiment de dire maintenant, la société est faite, tout ce qui se fait dans la société est fait d'une chaîne. Il y a eu une époque où la chaîne, il y avait une chaîne d'humains qui faisait que tout se faisait. Et maintenant, dans la grande chaîne des acteurs de la société, il y a des machines et des humains. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est on a beaucoup investi ces dernières années pour les machines intelligentes et la robotique. On va continuer à investir, mais en parallèle, maintenant, il va falloir investir aussi pour mettre l'humain à niveau. Maintenant qu'il est devenu le maillon faible. À partir de là, j'ai souvent pensé à Jeanne Favre-Sada. Est-ce que ceux qui sont sociaux, ça vous dit quelque chose, Jeanne Favre-Sada? Jeanne Favre-Sada, anthropologue qui, dans les années 70, a fait sa thèse de doctorat sur la sorcellerie dans le bocage normand. Elle raconte dans son livre que donc elle débarque dans le bocage et qu'elle dit, elle frappe à une première porte et elle dit « Bonjour, je fais une thèse sur la sorcellerie ». Et on lui répond « Ah oui, phénomène intéressant, il y a de la sorcellerie il y a de la sorcellerie chez nous, mais moi je ne pratique pas. Allez voir un peu plus loin. » Et elle va voir un peu plus loin, elle frappe à une porte et elle redit qu'elle fait une thèse sur la sorcellerie. Et on lui dit « Ah oui, la sorcellerie ça existe, mais moi je ne pratique pas. » Et en fait, elle se rend compte que, elle le dit en ces termes, elle dit « Le sorcier c'est toujours l'autre. » Et moi je trouve que l'analogie avec le transhumanisme, en tout cas tel que je le voyais à ce moment-là, et encore une fois je fais un anachronisme en disant transhumanisme vu que je ne l'appelais pas comme ça, c'était exactement ça. D'abord c'était la science-fiction, après c'était le fou et les Américains, mais ce que je voyais dans les laboratoires, c'était quand même des technologies qui tendanciellement étaient là pour augmenter les performances humaines. Et je trouve que l'analogie avec ce qu'a dit Jeanne Favre-Sada fonctionne jusqu'au bout, parce que ce que dit Jeanne Favre-Sada, c'est que dans le système de la sorcellerie, enfin que la sorcellerie est un système qui peut fonctionner même en l'absence de sorciers désignés. et que simplement le fait de pouvoir désigner un sorcier, bah, c'est le bouc émissaire du système. Et je pense qu'on peut complètement appliquer ça. Je veux dire, d'abord, il n'y avait pas de bouc émissaire de ce que je disais dans les laboratoires, donc c'était de la science-fiction. Puis après, est apparu Kevin Warwick, alors c'est devenu lui le sorcier du système. Mais en même temps, même en l'absence de Kevin Warwick, ben, il faisait quand même les mêmes choses dans leur laboratoire. Donc en 2002, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait implanter une puce informatique dans son avant-bras. Elle était plantée littéralement dans son nerf médian. Et l'exercice, c'était capter une onde cérébrale qui traversait le nerf médian. Enfin, ils cherchaient l'onde qui dirigeait les muscles de la main quand ils fermaient la main. Une fois qu'ils ont pu l'identifier, ben, ils ont programmé un ordinateur pour que à chaque fois que lui envoyait ce signal avec son cerveau, ben, qu'il y ait une action technique qui puisse être faite. Alors l'idée pour lui, c'était, parce que lui, son idée, c'est que si je dois me lever pour aller appuyer sur l'interrupteur pour éteindre la lumière, il y a ce boulet du corps et de l'espace, et que donc il faut que je puisse directement, au moment où je pense quelque chose, que l'action technique se fasse dans l'immédiateté. En résumé, c'était ça. Donc il a fait différentes expériences avec cet implant, par exemple manipuler une main robotique. Alors là, j'ai pas le temps de m'arrêter, mais j'ai bien vu que j'étais dans son laboratoire ensuite pendant les 4 ans qui ont suivi, et j'ai bien vu comment les discours critiques autour de lui se mettaient en place aussi, parce que dès le moment où il a médiatisé l'histoire de la main robotique, bah là tout de suite on dit ah bah oui, mais ça peut être utile dans le cas d'une amputation, donc c'est du thérapeutique, donc ça il faut l'autoriser à le faire. Puis en même temps, lui, c'était pas ce qui l'intéressait. Ce qu'il a fait, ils ont planté une électrode dans le nerf médian de sa femme et ils les ont reliés par l'ordinateur. De la même manière qu'avant, il était relié à la main robotique, là, il était relié à sa femme. Et l'idée de cette partie de l'expérience, c'était... Donc, il y a le brain-to-machine communication et le brain-to-brain communication. Dans les deux cas, avec l'idée d'éliminer l'interface corporelle. Donc, avec la partie sur la main robotique ou la lumière qui s'allume ou n'importe quel autre acte technique, l'idée, c'est de mettre en connexion le cerveau directement avec le monde technologique ambiant. Et ce qu'il a fait avec sa femme, bah, l'idée, c'est de mettre en connexion directe deux systèmes nerveux. Et à partir de là, bah, ils ont échangé des signaux, mais c'était très basique, hein. Lui vous parlerait de télépathie, moi je vous parle d'échange de signaux électriques en deux systèmes nerveux. Je pense que tant qu'on n'a pas la communication, pour moi, se résume pas à ça, alors que pour lui, elle se résume à ça. Enfin, on a beaucoup débattu sur ce genre de choses. Toujours est-il que là, vous le voyez aux États-Unis, mais il est toujours en train de faire la partie de l'expérience avec la main robotique. Sauf que la main robotique est en Angleterre et qu'il est en train de manipuler la main robotique en transmettant ses ondes cérébrales par Internet. Et là, du coup, ça a fait exploser les critiques qui disaient ben, l'histoire de la main robotique, on doit le laisser faire parce que ça peut être thérapeutique. Parce que là, ben, manipuler une main robotique qui est de l'autre côté de l'Atlantique, ben, on est toujours dans l'histoire de la main robotique, mais il n'y a plus grand monde pour dire qu'on est dans le thérapeutique. Donc, je trouve qu'avec les recherches de Kevin Warwick, on voit à quel point c'est juste impossible de mettre une limite claire, quand bien même on voudrait la mettre. Alors là, moi, je pense, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris cette expérience. Je vous parlais tout à l'heure de la société de l'information et du sommet mondial sur l'intelligence artificielle comme étant des émanations de cette tendance à vouloir une connexion toujours plus rapide. Et l'idée, quand je disais l'idée qu'on va sauver le monde si on a tous Internet, je veux dire, là, ce qu'il a fait, c'est fusionner son système nerveux avec Internet. Moi, ce que j'y vois, c'est juste une longueur d'avance par rapport à tout un chacun qui râle. Moi, la première, c'est la connexion à Internet n'est pas assez rapide. Je pense que dans cette orientation-là prise par notre société, il a juste montré une direction. Alors là, je l'illustre juste avec quelque chose de beaucoup plus récent, qui est une entreprise japonaise qui vise à faire de votre propre corps le terminal d'information. En fait, c'est bien vers ça qu'on tend. Enfin, je veux dire, on a tous un téléphone portable dans la poche maintenant. L'accès à l'information, il se fait de manière toujours plus intime avec le corps. Et là,
Je pense que c'est vers ça qu'on tend et que les recherches de Kevin Warwick l'ont très bien montré. Maintenant, très rapidement, j'aimerais juste reprendre le fil des rapports politiques. Parce que je vous dis, le rapport politique américain, au moment où il apparaît, on me dit c'est des fous. Il est apparu comme la plupart du temps, quand les Américains font un rapport, l'Europe, 4 ou 5 ans après, en fait un aussi. Et là, c'était très intéressant. J'ai discuté longuement avec un philosophe qui était impliqué dans la version européenne. Et je trouvais ça très intéressant parce que, au niveau européen, on a beaucoup critiqué le rapport américain parce que dans le titre, il y avait « augmenter la performance humaine ». Alors, il y avait deux choses qui dérangeaient. C'était l'idée de dire qu'on augmentait la performance. Et le deuxième, c'est qu'en le disant comme ça, on était focalisé sur l'individu et non sur la société. Et au niveau européen, on a dit « en Europe, on veut mettre la société au centre et pas l'individu ». Donc, le rapport européen, 4 ans plus tard, est devenu Converging Technologies, Shaping the Future of European Societies. Donc j'ai envie de dire, l'honneur est sauf, on a mis en avant ce qu'on voulait. Et après on ouvre le rapport et on regarde à l'intérieur. Alors, d'abord, c'est exactement les mêmes technologies qui sont promues. Donc, a priori, on ne voit pas trop en quoi l'emballage devrait faire une grande différence. Et à plus forte raison, l'idée, ça devient Converging Technologies for the European Knowledge Society. Et là, je boucle la boucle de mon histoire de société, du savoir, de l'information et tout ça. Parce que moi, je pense que l'aboutissement ultime de cette société, c'est cette connexion intime entre l'outil qui nous permet d'accéder à l'information et le corps. Donc, la boucle est bouclée et ce sont exactement les mêmes choses qui sont promues de manière complètement implicite. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple des recherches de Kevin Warwick qui, à mon avis, illustre bien le glissement de la norme. Parce que je pense que c'est bien ça qui est en jeu, c'est que les choses qui sont considérées comme de l'augmentation aujourd'hui vont être considérés comme du thérapeutique demain. Et ça, je vais vous l'illustrer à travers quelques exemples. Donc, le premier exemple, c'est cet implant. Alors là, je ne connaissais pas Kevin Warwick quand il l'a fait. Je n'étais pas du tout dans son labo. Mais j'en avais entendu parler. C'est là que j'ai entendu parler de lui la première fois. Il s'est mis un petit implant sous-cutané. Donc, pas de connexion avec son système nerveux. On est 4 ans avant l'expérience que j'évoquais tout à l'heure. Et cet implant, il lui sert juste de contrôle d'accès. C'est-à-dire que quand il arrive à son labo, il y a un portique, c'est comme quand on scanne les articles au supermarché, il est scanné, il fournit au système l'information qui dit qu'il est arrivé, et là, il y a des choses programmées, genre l'ordinateur qui s'allume. Mais il fait que contrôle d'accès. Et cette expérience, elle a été énormément critiquée par toute une série de gens qui disaient que c'était complètement ridicule comme expérience parce que une carte d'accès, c'est beaucoup plus simple. Et avec l'obsolescence technologique, on a dit, mais il va falloir aller le charcuter à chaque fois qu'il faut changer la puce. Donc, c'est ridicule. Moi, c'est un peu ça que j'avais retenu de tout ce que j'ai lu et entendu sur cette expérience à ce moment-là. Ensuite, c'est allé très, très vite parce que en même temps que lui, il y avait une entreprise américaine. Ils étaient les deux en compétition pour savoir lequel des deux allait en premier pouvoir dire qu'ils avaient mis cet implant en sous-cutané à quelqu'un. Et c'est lui qui a eu une longueur d'avance parce qu'il a fait le test en Angleterre et sur lui-même, alors que les Américains, ils avaient la Food and Drug Administration à convaincre avant de faire un test sur les humains. Mais ensuite, c'est allé super vite. Et cette autre entreprise qui s'appelle Applied Digital Solutions, elle commercialise maintenant depuis plus de 10 ans, c'est la taille d'un grain de riz chez eux. Alors là, j'ai pris une image, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était une rumeur, mais on a beaucoup dit que tous les membres du gouvernement mexicain avaient cette puce pour le cas où ils seraient enlevés. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui n'est pas devenu banal, mais qui s'est quand même déjà un petit peu généralisé. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez peut-être entendu parler de ces nightclubs, boîtes de nuit, où déjà en 2004, donc 6 ans après l'expérience de Kevin Warwick, tout à coup, quelqu'un s'est dit, mais quand une femme va danser puis qu'elle a son petit sac à main, elle va le poser sur le banc pendant qu'elle danse et puis elle va se faire piquer sa carte VIP du club. Donc, si on la lui implantait, ça serait, on est sûr qu'on ne la lui pique pas. Et puis, c'est là qu'un autre petit malin rajoute, mais dans la foulée, si on lui pique son sac, on va lui piquer aussi son porte-monnaie. Donc, faisons aussi un porte-monnaie électronique. Et donc, pour moi, c'est un excellent exemple de comment une technologie qui a été jugée carrément ridicule au moment où elle a été testée la première fois, 6 ans plus tard, finalement, on la trouve assez pratique et on lui en rajoute encore une couche. Et ça, je pense que le lien avec le dossier patient informatisé, la carte de santé, arrive tout à fait logiquement. Et moi, je fais le pari que dans quelques années, on aura tous notre petit implant avec tout notre passé médical implanté. Qu'on dira tous oui parce que ça nous sera promu sous l'angle de la thérapie. Ça sera de nouveau ce bon usage thérapeutique. Et que probablement qu'il y aura aussi des capteurs internes et qu'au moindre malaise, on pourra nous scanner, avoir directement notre passé médical dans une main et voir ce qui ne va pas en temps réel dans notre corps. Et on nous dira c'est pour vous sauver la vie parce que chaque minute compte. Et je pense que à l'heure actuelle, mais je veux dire, je me prends souvent comme exemple. À l'heure actuelle, je ne me vois pas avec un implant comme celui-là. Mais je suis persuadée que dans 10 ans, quand tout le monde en aura un, je demanderai le mien aussi. Et je ne pense pas être particulièrement un cas isolé. Le pacemaker, c'est un très bon exemple. Il y a 20 ans, j'ai fait un entretien avec un fabricant de pacemaker d'une entreprise que je ne nommerai pas, qui est implantée juste à côté de Lausanne, qui me tenait un discours très clair sur le fait que la culture d'entreprise, je crois que je peux le dire, finalement, c'est Medtronic, c'est assez logique que ça soit eux, que la culture d'entreprise de Medtronic, du fait, vu qu'ils avaient un film avec l'histoire du fondateur, tout ce qu'il avait fait de travail sur le cœur et tout, et qu'on ne parle que de thérapeutique. À l'époque, un pacemaker, c'était juste un petit objet qui faisait battre le cœur. Je suis sûre que si j'avais eu l'idée à ce moment-là de lui dire, et si je vous disais que dans 20 ans, le pacemaker sera connecté à Internet, de manière à ce que vous puissiez directement informer, enfin que votre cœur informe directement votre médecin si quelque chose ne va pas, je pense qu'on m'aurait dit c'est de la science-fiction. Or, ils ont toujours le même discours. Ils pensent qu'ils sont en train de faire que du thérapeutique et pas de l'augmentatif. Or, le pacemaker qu'ils fabriquent maintenant, c'est plus du tout celui qu'ils fabriquaient il y a 20 ans. Autre exemple qui pour moi alors est l'exemple le plus bateau mais en même temps le plus parlant, je pense qu'on fabrique de l'exclusion paradoxalement avec ces technologies. On nous les vend pour guérir, pour réparer, toujours dans cette métaphore mécaniste d'un corps abîmé qu'il faudrait réparer. Et paradoxalement, je pense qu'on crée... Oui, on crée de l'exclusion. Là, j'ai pris le guide de survie pour myope. Je l'aime bien, c'est un livre que j'ai pas lu. Mais si quelqu'un a eu l'idée d'écrire un guide de survie pour myope, c'est bien que la myopie est un problème, voire un handicap. Alors moi, je suis myope, j'ai des verres de contact. Si je portais pas mes verres de contact, je vous regarderais comme ça pour essayer de capter vos regards et j'arriverais pas. Et je pense que pendant 2 minutes, ça vous aurait fait sourire. Et puis après, vous auriez commencé à vous dire, ouais, mais bon, enfin... Lentilles, verres de contact, à notre époque, c'est accessible à tout le monde quand même. Pourquoi elle n'en met pas ? Vous auriez été agacée au bout d'un moment de me voir, de me voir ne pas bénéficier de ce que la technologie peut m'offrir pour me mettre à niveau avec ceux qui voient le mieux. Moi, mon idée, c'est de me dire qu'il y a eu une époque où il y avait probablement déjà des gens myopes, mais ils n'avaient pas besoin d'un guide de survie, parce que la fenêtre de ce qui était considéré comme normal et acceptable était plus large. Dans la catégorie considérée comme normale, il y avait des gens qui voyaient mieux que d'autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui voyaient moins bien étaient considérés comme handicapés. Maintenant, si je n'ai pas de lunettes ou de lentilles et que je suis myope, bah hop, je sors de la catégorie du normal pour entrer dans celle du handicapé. Et maintenant, si on poursuit le même raisonnement à l'avenir et qu'on se penche sur les recherches que fait la DARPA, l'Agence américaine pour les affaires militaires qui promeut le soldat technologique de l'avenir et du futur, on se rend compte qu'un de leurs chevaux de bataille à l'heure actuelle, c'est l'œil qui zoome. Parce que leur idée, c'est de dire quand on est pilote de chasse, il faut qu'on puisse voir tout le tableau de bord net, mais il faut aussi pouvoir regarder en dehors du cockpit au sol et voir net au sol. Et donc, pour ça, il faut un œil qui zoome. Donc, si ces technologies aboutissent, ils vont commencer par équiper les soldats, et puis après, ça va devenir accessible à tout un chacun. Et il viendra un jour où ceux d'entre nous qui n'ont pas besoin de lunettes et de verres de contact pour voir net, on leur dira « Mais quoi ? Mais vous n'avez pas votre œil qui zoome encore ? Mais vous souffrez d'un handicap insurmontable. » Et donc, quelque chose qui maintenant nous fait sourire, parce que ça relève très clairement, en fonction de notre définition actuelle du handicap, ça relève très clairement de l'augmentation, ben ça va être appelé à devenir quelque chose considéré comme thérapeutique. Autre exemple, alors caricatural celui-ci, mais que j'aime bien, Amy Mullins. Vous connaissez Amy Mullins, c'est une top modèle. Je l'ai rencontrée, j'ai fait un entretien avec elle l'année passée, j'ai adoré. Elle est drôle, elle est vraiment drôle. Donc elle a été amputée des deux jambes, c'est le même problème que Pistorius. Même égénésie quand elle était petite, même amputation, elle a grandi aussi sur des prothèses, elle n'a jamais marché qu'avec ses prothèses. Elle a aussi fait de la course à pied au début de sa carrière, mais après, elle est devenue top modèle. Et elle, alors, par rapport à la question de la normalité, elle a un discours que je trouve qui m'amuse beaucoup. D'abord, elle dit qu'elle a de sérieux avantages sur les femmes qui sont pourvues de jambes naturelles. Le premier avantage qu'elle a, dit-elle, c'est que quand vous avez des jambes naturelles et que vous changez de robe et que la robe n'a pas la même coupe que celle que vous aviez avant et que vous aimeriez un peu jouer sur votre silhouette, vous pouvez jouer que sur la hauteur des talons, alors qu'elle, elle a des jambes qui font jusqu'à 20 cm de différence de longueur les unes avec les autres et que donc il suffit qu'elle mette une jambe de 20 cm de plus, enfin les deux, hein, c'est pas qu'elle veuille boiter, elle met des jambes de 20 cm de plus et ça change tout de suite sa silhouette. Et alors, le deuxième avantage qu'elle dit qu'elle a sur les femmes pourvues de jambes, là je vous invite à me suivre dans un raisonnement par l'absurde, mais je pense que les raisonnements par l'absurde et les caricatures nous permettent d'anticiper sur ce vers quoi on va. Alors elle dit aussi, c'est pour ça que j'ai pris la deuxième photo où elle est nue, enfin pratiquement nue en tout cas, ce qu'elle dit c'est qu'en termes de bien-être au quotidien, elle a là aussi une grosse longueur d'avance sur toutes les autres femmes parce que toutes ses jambes sont épilées et que donc elle gagne du temps. Elle n'a jamais besoin de s'épiler les jambes. Et c'est là que je dis que je vous invite à me suivre dans mon raisonnement par l'absurde. Parce que là, je fais un grand écart, mais je vais y revenir. Si on prend la définition de la santé de l'OMS, hein, jamais modifiée depuis 1946, on nous dit que la santé n'est pas qu'une absence de maladie ou de handicap. Elle est un état de bien-être, justement, bien-être physique, psychique et social. Donc, mon raisonnement par l'absurde, c'est de me dire que si la question des poils aux jambes est une question de bien-être au quotidien, alors on peut se demander à quand un problème de santé publique autour de cette pathologie devenue insupportable qui consiste à avoir des poils aux jambes. Et pour lesquels Amy Mullins aurait déjà une longueur d'avance. Alors évidemment, contre ce qui nous semble pathologique maintenant, et le fait que ça soit le fait d'avoir des poils aux jambes qui nous semble pathologique, le chemin est encore long probablement, et on va probablement rendre pathologique encore beaucoup d'autres choses avant d'en arriver à ce point-là. Mais ça pourrait être, parmi d'autres, une chose qui un jour... Il y a eu le Janu Harry, d'ailleurs, qui s'est pas entendu parler du Janu Harry, cette étudiante qui a lancé un challenge en janvier, donc Janu Harry, où c'était le challenge, c'était pour les femmes de ne pas s'épiler pendant tout le mois de janvier. Elle dit, y a les gens qui ne boivent pas d'alcool en janvier, il y a aussi le challenge des poils. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que si elle en est arrivée à devoir faire ça sous forme de challenge, c'est qu'elle est sur la même longueur d'onde qu'Amy Mullins, c'est que ça constitue vraiment un bien-être social et donc une pression sociale pour celle qui a fait January. Donc tout ça pour dire que notre système médical, c'est un système médical qui prend de plus en plus en charge des patients sains, ce qui semble antinomique dans les termes. Qu'on parle de médecine préventive, de médecine prédictive, je vais revenir à la médecine prédictive, et de médecine anti-âge, la médecine anti-âge c'est un peu le pompon quand même. Vous devenez le patient d'un médecin parce que vous vieillissez. Il y a, je crois, 30 000 médecins qui font partie de l'Association américaine de médecine anti-âge. C'est juste énorme. Cette association, elle n'est pas vieille. Hein. Je crois que ça fait 30 ans qu'elle existe, grand maximum. Ça veut dire que des médecins de toutes spécialités confondues se rejoignent autour de l'idée que un but à atteindre, c'est de lutter contre le vieillissement. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être beaucoup parlé de la question de l'immortalité et tout ça. Non, aller rapidement, mais là j'ai pris un exemple qui me semble extrêmement révélateur d'un des nombreux magazines qui existent maintenant sur la santé, la médecine anti-âge, parce que là aussi il y a un glissement énorme et j'ai été amusée de voir que le glissement, il est résumé dans ce petit paragraphe qui nous dit « La recherche fait depuis quelques années des progrès étonnants dans la compréhension des maladies liées au vieillissement. Ces progrès sont si rapides que nous avons du mal à envisager pratiquement ce qu'ils peuvent impliquer pour notre propre cas. Le journal de la médecine anti-âge est un sésame pour découvrir et comprendre toutes les nouvelles thérapies et solutions naturelles anti-vieillissement. » Et le glissement, c'est dans la première phrase, on nous parle des maladies liées au vieillissement et dans la dernière phrase, on nous parle des solutions naturelles anti-vieillissement. Ce qui évoque bien le fait qu'on a passé d'un système médical qui soignait les pathologies dues au vieillissement à un système médical qui soigne le vieillissement comme étant lui-même une pathologie. Et ça, ça montre bien que, qu'au fond, il y a un handicap qu'on partage tous, c'est le fait d'être sujet au vieillissement, à la maladie, à la mort et à la finitude en général. Ce qui potentiellement, du coup, fait entrer le fait de nous soigner de notre humanité dans le projet thérapeutique. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Aubrey de Grey, donc biogérontologue anglais qui, il y a déjà quelques années, a dit que le premier être humain qui vivrait 1000 ans est déjà né. Lui, il se préoccupe de ralentir le vieillissement cellulaire. Il a dit, ça peut aller aussi vite que ce que j'ai déjà pu faire ici dans les années qui viennent, ça veut dire que le premier qui vivra 1000 ans est déjà né. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de Calico. Ça, je trouve que c'est très intéressant, Calico aussi, parce que c'est le pendant biotechnologie de Google. Cette idée de convergence technologique, elle trouve aussi tout son sens là, vu que Google a commencé par faire beaucoup d'argent avec les technologies de l'information et de la communication, et puis après a ouvert la filiale Calico, pour laquelle ils ont engagé Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, c'est un peu le Kevin Warwick du continent américain. Et leur premier slogan quand ils ont créé l'entreprise avait été qu'ils voulaient tuer la mort, donc on peut pas plus évocateur que ça. Je voulais rapidement revenir sur la médecine prédictive aussi. Là aussi, pour vous donner quelque chose, un raisonnement un peu, peut-être moins par l'absurde que celui d'Amy Mullins, mais de nouveau quelque chose d'assez caricatural. Médecine prédictive, une autre de ces médecines qui prend en charge des patients en bonne santé en espérant qu'ils le restent. Vous avez tous entendu parler de la double mastectomie d'Angelina Jolie, dont la mère et la tante sont décédées d'un cancer du sein ou des ovaires, et qui a fait un test génétique, s'est rendu compte que son risque d'avoir le même cancer que sa mère et sa tante était très élevé, et donc elle a fait une double mastectomie et une reconstruction mammaire. Je trouve que c'est un cas extrêmement intéressant. Là, j'ai pris un des nombreux articles dans lesquels on nous dit que quand elle a rendu publique sa démarche, les demandes de tests génétiques ont augmenté dans la plupart des centres contre le cancer. Alors déjà là, moi j'ai beaucoup de questions, j'ai pas de réponse, je partage mes questions avec vous. Déjà là, en termes de s'interroger quant à la société de demain, Angelina Jolie a des gros moyens financiers. Le test, la mastectomie, la reconstruction, ça a dû poser aucun problème financier pour elle. Dans une société dans laquelle, on l'évoquait tout à l'heure à table, je ne sais pas comment c'est en France, mais la Suisse est un pays extrêmement riche et pourtant on a un système de santé à deux vitesses, avec un système d'assurance obligatoire que tout le monde doit avoir, puis des assurances complémentaires, et vous vous rendez compte que très vite vous êtes pris par un système dans lequel l'assurance de base rembourse très peu de choses.
Donc, dans ce système social qui est le nôtre et qui, encore une fois, est déjà le système d'un pays riche, je ne suis pas sûre à terme que l'exemple qu'a donné Angelina Jolie soit un exemple que Madame Tout-le-Monde puisse suivre, simplement. Donc, ça pose bien évidemment des questions d'accessibilité. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est même pas ça. C'est encore un cran plus loin par rapport à une société à plus long terme et voire par rapport à la question de l'humanité. C'est que je vous invite à faire un exercice d'imagination. Si Angelina Jolie avait été la sœur de sa mère et de sa tante, qu'elle ait vécu à la génération d'avant, elle aurait été obligée de prendre le risque. Elle serait peut-être morte, peut-être pas, mais elle n'avait pas le choix. Les technologies de l'époque faisaient qu'une femme devait prendre le risque. Elle n'avait pas le choix. Angelina Jolie arrive à sa génération, elle a la possibilité du test prédictif. Donc elle le fait, on connaît l'histoire. Maintenant, essayez d'imaginer Angelina Jolie à la génération suivante. Eh bien, moi, je pense qu'Angelina Jolie à la génération suivante, elle ne vient pas au monde. Il n'y a pas d'Angelina Jolie, parce que maintenant, on arrive à l'ère du diagnostic préimplantatoire. Et que le médecin, devant son éprouvette, qui a 12 embryons féminins, et qui voit l'embryon d'Angelina Jolie et dit « Oula, celui-là, il a un énorme risque d'avoir un cancer du sein », alors après, vous pouvez me dire « Oui, mais thérapie génique, on peut la corriger ». Mais en même temps, il y a 11 autres embryons à côté, il va bien y en avoir un qui n'a pas de risque, et sur lequel il n'y a rien à faire. Donc, ce n'est pas Angelina Jolie qui est réimplantée. Et ça, je pense que ça devrait nous amener à nous interroger, parce que alors ça, c'est pas du tout mon domaine, mais les questions éthiques qui portent sur les vies qui ne vaudraient pas la peine d'être vécues. Ça veut dire qu'on en arriverait à dire que la vie d'Angelina Jolie ne vaudrait, on la connaîtrait pas, mais on dirait cette vie-là ne vaudra pas la peine d'être vécue parce qu'elle a un trop gros risque d'avoir un cancer. Et ça, bah, c'est une société très eugéniste, je dirais, qui est en train de se mettre en place. Société dans laquelle, sous prétexte, ou peut-être pas sous prétexte, c'est pas le bon terme, je dirais que le discours, c'est que les sciences et les technologies actuelles vont nous permettre d'éradiquer les maladies. En réalité, c'est pas les maladies qu'on éradique, c'est les personnes malades. Et c'est pas la même chose du tout. Pour terminer, je vais reprendre encore une fois je vais faire encore un pas dans les rapports politiques. Parce que donc on a vu 2002 le rapport américain, 2006 le rapport européen. En 2010 et revu en 2012, apparaît un rapport anglais cette fois qui est très clairement orienté sur la croissance économique. Hein, donc là, le discours est clair. Ce qu'on veut, c'est mettre en avant les technologies dont on imagine qu'elles vont booster la croissance économique. Et on est en 2010, on nous dit à l'échelle de 2020 et à l'échelle de 2025. Ils essayent d'anticiper. Et ce que je trouve intéressant, et là je boucle la boucle avec Kevin Warwick, c'est que on nous dit que dans le domaine de l'informatique, on attend pour 2020 des ordinateurs manipulés par le biais de puces implantées dans le cerveau des utilisateurs. Quand je dis qu'on les attend, c'est plutôt qu'on les espère dans le rapport. Et pour 2025, des ordinateurs hybrides mélangent de tissus vivants et de technologies. Et là où moi ce rapport m'a beaucoup amusée quand je l'ai lu, c'est qu'on est dans le contexte anglais. Kevin Warwick est anglais. Il est beaucoup critiqué les années que j'ai passées dans son labo, j'ai assisté à ses conférences, j'ai beaucoup été avec lui, j'ai beaucoup entendu être critiqué. Et ce que je trouve amusant, c'est que l'histoire des ordinateurs manipulés par le biais de puces implantées dans le cerveau des utilisateurs, eh ben, dans la logique de Kevin Warwick, c'est ça l'étape suivante de ce qu'il voulait faire. D'abord une puce en sous-cutanée, puis une puce implantée dans son système nerveux périphérique, puis une puce implantée dans son cerveau. Donc on est en train de parier que ces recherches vont rapporter de l'argent. Et le deuxième, les ordinateurs hybrides mélangent de tissus vivants et de technologies. Là, il faut que je fasse une incursion de nouveau dans le laboratoire de Kevin Warwick, puisque il avait d'un côté de son laboratoire toute la partie où il travaillait au cyborg, aux implants, mais il avait de l'autre côté toute la partie dans laquelle il travaillait à des robots. Et d'ailleurs, ça me faisait souvent dire que c'était le syndrome du bras droit qui ne savait pas ce que faisait le bras gauche, parce que son discours, c'est de dire, c'est un peu le même discours que dans le rapport américain, on a développé des machines qui vont nous dépasser, donc si on veut survivre, il faut fusionner. Sauf que ce qu'il ne disait pas, c'est que lui, dans l'autre partie de son labo, bah, il les fabriquait, ces machines. Donc il utilisait ce qu'il faisait dans une partie de son labo pour justifier ce qu'il faisait dans l'autre. Et justement, dans cette partie de labo où il faisait des robots, en 2008, il a créé Gordon. Ce que vous voyez là, c'est le corps du robot. Le cerveau du robot, il est dans une couveuse, parce qu'en fait, c'est un hybride entre du vivant et du non-vivant. Et donc, le cerveau a besoin d'une température et d'un taux d'humidité toujours égal et propice pour qu'il puisse survivre. Et donc, il y a ce cerveau en couveuse qui manipule à distance le corps du robot. Et la première version de Gordon en 2008, c'était des neurones de rats qui avaient été utilisés. Et dans la deuxième version, en 2011, c'est des neurones humains qui ont été utilisés. Donc, ça veut dire que les deux types de technologies sur lesquelles comptait l'économie anglaise, bah, ces deux types de technologies, quand ils ont fait le rapport, qui avaient déjà été développés dans le laboratoire de Kevin Warwick. Je répète encore une fois, dont tout le monde disait par ailleurs qu'il était fou parce qu'il voulait augmenter l'humain. Maintenant, je vais conclure très rapidement. Enfin, laissez-moi encore juste 2 minutes. Lui, j'imagine que vous le connaissez tous. Terminator, du film du même nom. Lui, vous connaissez peut-être un tout petit peu moins, mais il est dans le même film, il est dans Terminator 4, c'est Marcus Wright. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que Terminator, bah, c'est une machine humanisée, si je reprends ma dichotomie tout à l'heure. Alors que Marcus Wright, c'est un humain machinisé. C'est un humain au début du film, et il est utilisé pendant tout le film par une entreprise qui fabrique des organes. Et à la fin, il lui reste plus que le cœur humain, ce qui nous en dit long sur l'imaginaire du réalisateur du film, pour qui, manifestement, c'est le cœur, si on revient à ce que je disais au début sur la chose à ne pas changer. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ces deux figures qui sont complètement opposées, en fait, elles se ressemblent énormément. Et que si on ne savait pas lequel était l'humain et lequel était la machine au début, on ne pourrait pas dire tendanciellement, je pense que c'est ça le propre de notre société, c'est cette indifférenciation. Ce n'est pas seulement une interchangeabilité entre le vivant et le non-vivant, c'est carrément une indifférenciation. Et ça, on le voit, la concrétisation, la quintessence de tout ça, c'est les nanotechnologies. Tout à l'heure, dans le rapport américain, il y avait nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives qui étaient à plat. Enfin, à plat, je veux dire, elles sont présentées comme 4 voies parallèles qui doivent se rejoindre. Or, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que biotechnologie, sciences cognitives et technologie de l'information se caractérisent par l'objet sur lequel elles portent, alors que les nanotechnologies se caractérisent par l'échelle à laquelle elles travaillent. Et donc, ce qu'il y a au fond du rapport américain qui n'est pas dit, c'est qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que les 3 autres types de technologies se déroulent maintenant à l'échelle nanoscopique. Donc, c'est appliqué à l'échelle nano toutes les autres technologies. Et quand vous discutez avec les ingénieurs qui travaillent à l'échelle nanoscopique, ce qu'ils vous disent, bah, c'est qu'à l'échelle nano, il n'y a plus de différence entre le vivant et le non-vivant. Un atome, c'est un atome. Et c'est la manière dont ces atomes vont être associés les uns aux autres qui définira le statut de l'objet ou de la personne. Et là, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la robotique bio-inspirée. C'est exactement cette logique-là. Et juste, alors, pour conclure, là, je conclue vraiment. Je voulais vous montrer cette citation que j'ai évoquée tout à l'heure. Parce que là, je vous ai dit, j'ai 2017-2018, j'ai revisité les laboratoires qui existaient déjà à l'époque où j'ai fait ma thèse, et j'ai aussi rencontré d'autres chercheurs. Et là, en l'occurrence, j'avais trouvé intéressant parce que j'ai rencontré un neuroscientifique qui est venu à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne faire une conférence qui était très axée sur le thérapeutique, mais typiquement dont on voyait bien où le glissement pourrait se jouer avec de l'augmentation. Et ce chercheur était basé à l'université d'Oxford. Et donc Oxford, il y a quand même l'Institute for Human Future qui est dirigé par Nick Bostrom et qui est clairement un institut de philosophie transhumaniste. Oxford est tout près de Reading où était Kevin Warwick. Donc je me suis dit, je trouverais intéressant de le confronter à ça. Et ensuite on a eu un échange par courriel et il me répond, vous posez des questions qui ne sont pas courantes, mais qui restent de fond. Je ne connais pas les gens que vous nommez, donc Nick Bostrom et Kevin Warwick. Mon travail est d'identifier les mécanismes cérébraux qui expliquent le comportement. En lisant votre email, je me suis demandé en fait ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ceux qui pensent à créer l'être surhumain que vous décrivez. Cela me semble évidemment complètement inapproprié. En tant que biologiste, je pense que la gestion de l'évolution des espèces est le privilège de la nature. C'était à cette citation que je pensais tout à l'heure quand je vous disais l'antispécisme par rapport aux robots et le transhumanisme par rapport à l'humain. Lui, non seulement il ne connaissait pas, mais même quand on lui en parle, il ne se sent pas concerné. Donc j'ai retrouvé exactement cette même attitude. Il ne me dit pas c'est de la science-fiction, comme on me disait à 20 ans. Il ne me dit pas c'est un fou ou c'est des Américains. Mais il me le présente autrement, mais j'y vois toujours exactement ce même soubassement. Et juste vraiment pour conclure, Kevin Warwick avait pour habitude de terminer ses conférences quand je travaillais avec lui en prenant l'exemple de la voiture et en disant il avait les statistiques des accidents en Angleterre et il disait il y a tant d'accidents qui ont eu lieu l'année dernière, on aurait pu éviter X% donc tant d'accidents si il n'avait pas fallu perdre du temps entre le moment où je réalise que je vais devoir freiner, le moment où j'appuie sur le frein, et que donc il fallait absolument connecter directement le frein de la voiture au cerveau pour pouvoir gagner la fraction de seconde qui éliminerait des accidents. Et en fait, donc, ce chercheur qui travaillait avec l'aéronautique, il était extrêmement critique avec Kevin Warwick. Et là, l'automne dernier, je découvre dans son labo un habitacle de voiture reconstitué. Et je lui demande de me parler un peu de cette expérience. Et alors, je me rends compte qu'il va même beaucoup plus loin que ce que disait et ce que voulait faire Kevin Warwick, puisque lui, là, son intention, c'est avec des capteurs externes, d'anticiper votre intention de conducteur. Donc l'idée, c'est que si je m'approche d'un carrefour, on va, en regardant les mouvements de mes yeux et certains certains mouvements qui se passent au niveau de mon cerveau, on va pouvoir comprendre que ce que je vais faire, c'est tourner à droite à ce carrefour-là, et donc par un système de caméra et tout, s'assurer qu'il n'y a pas une dame âgée ou un enfant en train de traverser sur le passage piéton. Donc dans le sens de l'anticipation, il est un cran plus loin de ce que prônait Kevin Warwick il y a 10 ans. Par contre, quand on en discute, il continue à tenir exactement le même discours sur le fait que lui ne travaille que pour le thérapeutique et pas pour l'augmentation de l'humain. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une boucle qui se boucle comme ça, avec le fait que 20 ans plus tard, il fait plus du tout les mêmes choses qu'il y a 20 ans, mais il n'a pas changé d'un iota son discours, ce qui me conforte dans l'idée que le transhumanisme, il est au bout du chemin du bon usage thérapeutique, étant entendu que notre notion du thérapeutique évolue continuellement. Et donc ça fait de notre société une société transhumaniste qui s'ignore. Voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous.